on termine avec la thématique sur le proverbe « Sagesse de Dieu pour réussir ta vie » et le titre que j'aurais pu donner ce matin, c'est « Sagesse de Dieu pour réussir ton couple ». Termine la thématique ce matin, qui était débutée début février. Il y a plein de notions qui pourraient être encore abordées, des principes que le livre des proverbes nous donne pour réussir nos vies, pour gérer nos vies avec du bon sens. Ce livre exploite tant et tant de choses, mais on vous laisse le soin de découvrir ça par vous-même. Maintenant, on finit en parlant de la sagesse que Dieu veut nous communiquer pour pouvoir réussir notre vie de couple. Dans le chapitre 5 des proverbes que nous allons lire, on voit que Dieu traite du succès dans le couple en développant le processus de l'infidélité conjugale et ses conséquences, mais nous communique également des éléments pour vivre le succès dans nos relations de couple. Vous savez, la santé spirituelle de l'Église ne peut pas être supérieure à la santé spirituelle des familles qui la composent. Et la santé des familles qui la composent ne peut pas être supérieure à la santé des couples qui la composent. Et la santé des couples qui la composent ne peut pas être supérieure à la santé spirituelle des individualités qui composent ces couples. N'oubliez pas qu'avant toute chose, Dieu a institué le mariage pour nous donner un aperçu de l'évangile de Jésus. Alors, mesdames, s'il vous plaît, ne grincez pas des dents de ce que vous allez entendre maintenant. Dieu vous invite à vous soumettre à vos maris. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ils doivent vous aimer comme Christ a aimé l'Église. Autrement dit, vous êtes invités à respecter celui qui doit être votre serviteur et pas votre bourreau. Vous devez vous soumettre à celui qui doit être votre serviteur. Jésus, c'est le service de son Église. Il a payé le prix fort pour son Église, pour amener pour elle. Être un responsable spirituel, c'est être un serviteur. Le mari qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église met ses intérêts de côté afin de prendre soin de sa femme. Nous allons voir plus loin que l'amour sert l'autre et ne se sert pas de l'autre. L'amour véritable sert l'autre et ne se sert pas de l'autre. Jésus a manifesté cet amour en se dépouillant de lui-même et en offrant ce qu'il avait voulu lui, sa propre vie, pour ôter nos erreurs, afin que notre relation avec Dieu puisse être harmonieuse et sans obstacle. Et je crois que cette relation harmonieuse, c'est aussi l'objectif de Dieu pour nos couples. Alors ce matin, le message n'est pas à destination seulement des gens qui sont mariés. Il veut parler aussi à ceux qui sont célibataires pour qu'ils puissent aussi avoir les clés, les bonnes clés pour bâtir un couple harmonieux un jour. Et pour cela, il y a un piège à éviter, c'est celui de l'infidélité conjugale. On commence la lecture. Le premier point de l'infidélité conjugale, est plus un processus qu'un acte soudain. Proverbe 5, verset 1 à 6. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Tends l'oreille de mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Certes, les lèvres de l'étrangère bruissent de miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie. Ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas. Nous voyons que Dieu s'adresse dans ce passage à nous comme un père expérimenté qui donne des conseils à son fils afin que dernier puisse prendre les bonnes décisions qui vont être constructives pour sa vie. Voilà pourquoi nous voyons que l'adultère et l'infidélité conjugale, sont peints sous les traits d'une femme. Et là, je mets une petite étoile. Ce n'est pas la femme le problème. Nous voyons que l'adultère est dépeint sous les traits d'une femme parce que Dieu s'adresse à nous comme à des fils. La femme n'est pas le problème dans l'histoire. Parce que les hommes et les femmes sont invités à rechercher la sagesse. Parce que l'être humain est par nature méchant et corrompu. Le problème n'est pas la femme parce que nous verrons au chapitre 7 que la sagesse, elle est appelée ma sœur. Donc le problème dans ce passage-là, ce n'est pas la femme, même si elle est dépeinte par l'image d'une femme, mais c'est ce qu'il y a derrière.
l'adultère, l'infidélité conjugale. Dieu invite son fils à garder la réflexion. Il invite son fils à être vigilant. Il nous invite à ne pas perdre la tête. L'attraction de la séduction peut nous faire tourner la tête au point de faire n'importe quoi. La tentation de l'innocence a cette capacité d'obscurcir notre réflexion et notre discernement. La bataille se situe dans nos pensées. Vous savez, il est rare qu'un disciple de Jésus pense secrètement dans, dans sa tête au jour du mariage à tromper son épouse. C'est rare. C'est rare qu'un chrétien se lève le matin et qu'il se dise aujourd'hui seul bonjour pour tromper ma femme ou pour tromper mon mari. En revanche, ce qui peut se passer, ce qui peut se mettre en place si on le permet, c'est plutôt un processus lent, subtil et destructeur. Nous voyons dans notre texte que le fils est attiré par les lèvres de l'étrangère qui lui celle de l'aile. Il y a ici un aspect attirant, un aspect séduisant, envoûtant même de la beauté, mais aussi certainement de la personnalité de cette femme. Les lèvres peuvent aussi correspondre à un discours flatteur, attirant et séduisant. Son palais est comme de l'huile. L'huile, c'est même en hébreu, c'était le produit de base qui servait à soigner. Et l'huile du palais de cette femme semble procurer un baume à ce fils. On va regarder maintenant quelques clés pour éviter de tomber dans le piège de l'attraction. On l'a vu la semaine dernière, les conflits peuvent éclater dans nos relations, que ce soit dans le couple ou ailleurs. Si vous décidez de commencer à partager les problèmes de la maison avec un ou une amie du sexe opposé, commencez à parler, à raconter les misères, peut-être à dire qu'il ne va pas dans votre couple, de critiquer les faits et gestes de votre conjoint qui vous déplaisent, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Et moi, vous allez trouver une oreille qui va être à l'écoute et puis qui va sembler vous réconforter. Il y a un processus qui va s'enclencher tout doucement. Vous allez peut-être vous dire, mais je suis tellement bien quand je suis avec lui, quand je suis avec elle, quand je peux lui confier mes causes à la différence de ce que je dis à la maison. Attention, danger, l'herbe n'est pas plus verte. Attention à ne pas comparer le pire de votre conjoint avec le meilleur de cette personne que vous ne voyez que dans des moments bien précis. Attention de comparer le pire de votre conjoint que vous voyez tous les jours avec le meilleur de cette personne qui est là, semble-t-il, pour vous écouter dans les meilleurs moments, dans les petits moments tranquilles. Vous savez, lorsqu'on va dans une journée de portes ouvertes, dans une entreprise ou autre chose, on ne vous dévoile que les bons côtés, dans le but de vous attirer ou de vous faire venir. Et on cache volontairement certaines choses qu'on n'aurait pas envie qu'ils sachent. C'est exactement pareil lorsqu'on commence à s'associer avec quelqu'un. C'est le beau côté. C'est le moment où il n'y a pas de pression, il n'y a pas de vie, on est là, on discute, on partage, on se laisse tenter et puis on se sourit, etc. Vous laissez attirer va vous entraîner et le piège va se refermer. L'huile sentie et consommée va se transformer en absinthe, en amertume. Le délicieux va se transformer en quelque chose de répugnant. Le bien-être éphémère du péché va se transformer en souffrance. Combien de foyers, de familles brisées à cause des conséquences de l'adultère et du divorce qui vient souvent suite. Des gens qui ont tout quitté, conjoints, enfants, pour la clé du moment, et qui finissent quand même par se retrouver seuls, en se sentant ravagés intérieurement, ayant blessé celui ou celle pour qui vous avez dû porter un amour à l'image de Christ. Des enfants qui souffrent des conséquences. On peut parler de manque de repère, de culpabilité due à la séparation des parents, toutes ces choses qui peuvent traverser la tête d'un enfant. Tout ça à cause d'une situation folle. L'infidélité détériore notre capacité d'aimer, elle dégrade les humains et les transforme en objets. Et bien sûr, notre relation avec Dieu et aussi, elle prend le coup, elle est brisée. Et ça va prendre un long processus de reconstruction et de repentance qui seront nécessaires si la personne désire s'en sortir et être de nouveau au bénéfice de la grâce de Jésus qui est mort pour des péchés. Parce que s'il n'y a pas ce processus de repentance, nous allons se retrouver ici, c'est la mort. Cette mort, elle est évoquée par l'expression « séjour de mort » qu'on a vu, qui nous parle du lieu de l'état pour ceux qui commettent le mal, un lieu de non-retour et un lieu de tout lieu. Vraiment, je vous encourage, ne comparez pas le pire de votre conjoint avec le meilleur de ce que quelqu'un pourrait vous proposer n'importe où. Vous savez, faire ça, c'est faire deux poids, deux mesures. Parce qu'on n'est pas sur la même étape. On juge quelqu'un sur un moment en comparaison de celui avec qui on vit. Si le jardin semble plus vert ailleurs, c'est qu'il est temps que tu entretiennes le tien. Si le mariage est plus vert ailleurs, c'est qu'il est temps que tu entretiennes le tien. Ça nous emmène au second point ce matin. La fidélité conjugale se vit en ne passant pas trop de temps avec une personne du sexe opposé. Proverbe 5, versets 7 à 14. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Passe loin de chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Sinon, tu livreras ta dignité à d'autres et tes années à un mari sans pitié. Sinon, des étrangers se rassasieront de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'un autre. Sinon, tu gémiras près de ta faim, que ta chair et ton corps dépériront. Tu diras alors, comment donc ai-je pu détester l'instruction et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix du maître, ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'excusaient? Encore un peu, et j'aurais été au comble du malheur et au milieu du peuple et de l'assemblée. Au milieu du peuple et de l'assemblée. L'expression des fils semble montrer que Dieu sait que c'est un véritable problème qui peut concerner plusieurs. Ceux qui veulent garder du mal doivent rester hors de son chemin. À la fin de notre vie, il sera trop tard pour demander et suivre des conseils. Quand on est pris au cœur de cette séduction, on ne veut rien entendre parce que le seul objectif, c'est de satisfaire à ce désir. Le meilleur moment pour informer des dangers de l'adultère et de l'immoralité sous toutes ses formes, c'est avant que la tentation surgisse. Il est plus facile de résister lorsque nous sommes décidés. N'attendons pas de voir ce qui va arriver. Nous n'attendons pas de voir ce qui va arriver. La bataille dans les pensées peut se remporter tant que la pensée n'est pas mise en action, tant qu'on ne s'est pas mis en film dans notre tête. Quand on commence pas à faire le film avec les secrets de la rue, c'est tellement bien. La bataille de la pensée se remporte avant de mettre le film en action dans notre tête. L'infidélité conjugale n'est attirante que si vous vous arrêtez aux apparences, sans en discerner les conséquences. Dieu sait que la femme ou l'homme interdit peuvent paraître délicieusement tentants. C'est pourquoi il nous avertit de la menace terrible qu'elle représente en réalité. Nous voyons que le fait de tomber dans ce piège peut nous faire tomber dans la disgrâce publique. On le voit au verset 14 lorsqu'il dit qu'il aurait été au comble du malheur au milieu du peuple et de l'assemblée. Le nombre de scandales chez les serviteurs de Dieu nous pousse à veiller à ne se pas croire au-dessus de ces choses. Combien d'églises fragilisées, de croyants déstabilisés dans leur foi à cause d'une chute morale d'un leader. Et quel discrédit cela engendre sur Dieu pour ceux qui entourent ces gens et qui ne connaissent pas Dieu personnellement. Quel discrédit cela jette. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce et que nous prenions soin d'écouter les avertissements de notre Père qui veut le meilleur pour ses enfants. Vous savez, quand le Père s'adresse à nous comme à des fils, c'est parce qu'il veut nous répondre. C'est parce qu'il il sait ce qui est vraiment bon pour nous. Et quand il s'adresse à des fils, ne tombe pas dans le piège. Il est en train de nous dire ne tombe pas dans le piège, ne laisse pas avoir. Les versets 9 et 10 nous parlent d'autres conséquences, comme peut-être tomber sous la vengeance du mari de cette femme et de son exigence de voir la loi s'appliquer. Cette époque-là, c'est la peine de mort dans le contexte. L'expression des étrangers se rassasieront de ton bien et du produit de ton travail peut faire allusion à des dettes contractées auprès des créanciers pour subvenir aux frais occasionnés par sa vie de débauche. Vous savez, je connais quelqu'un dans mon entourage qui avait un très bon salaire et qui voyait tous les mois partir son salaire dans plusieurs pensions alimentaires. Pour payer, à payer à cause de la vie dissolue qu'il avait choisie, à cause des divorces consécutifs et des séparations répétées qu'il avait vécues, à cause de sa vie libertine. Son salaire, son bon salaire, partait dans des pensions alimentaires. Et ce qui est normal, parce qu'il y avait des enfants derrière. Hein. Mais ce que je vous dis, c'est que le piège, c'est que du coup, il ne jouissait même pas de ce qu'il travaillait, parce que ça partait dans la poche d'autre. Jean-Sébastien Morin, j'avais cité le livre la semaine dernière, donc il y a une prof à l'école publique qui a écrit un livre Marié et heureux, que je recommande à tous les couples mariés, donne une statistique qui dit que plus d'un tiers des Français, 36%, avouent avoir été infidèle avec un collègue de travail lors d'une réception organisée au bureau. 36%. Pourquoi ? Comment a commencé notre relation avec notre conjoint ? Du temps passé ensemble, des repas, des coups de fil, des textos, etc. Bon, il y en a, c'était pas les textos à votre époque, mais quand même, il y avait des échanges. Il y avait des temps d'échange, vous passiez du temps avec la personne aimée. Vous savez, la maximité se bâtit lorsque deux personnes passent du temps ensemble. Lorsque nous sommes mariés, l'intimité avec le sexe opposé n'est le privilège exclusif de notre époux et de notre épouse. Les proverbes emploient le terme alous pour parler du conjoint comme de l'ami le plus intime. Dans Proverbe 2, verset 17. Mais souvent, lorsque ce mot alous est employé pour parler de cet ami intime, il est employé dans un contexte de trahison ou de dispute. Celui qui doit être notre ami intime, il peut le trahir. Celui qui est censé être notre meilleur ami, on peut le trahir par notre conduite. Je crois que quand le livre des Proverbes nous parle de cette amie intime, qui met les enfants sur cette trahison qui est faite, ça nous montre que Dieu veut nous rappeler que cette intimité doit être protégée. Nous devons protéger notre intimité avec notre conduite. Alors, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit d'avoir d'amis du sexe opposé? Non, bien sûr, nous pouvons avoir des amis, mais pas au point d'aller passer du temps chez lui ou chez elle, seul à seul. Pas du passer du temps seul à seul. Il peut aussi arriver parfois d'avoir des conversations, des textos, Facebook, ou alors qu'on est au travail, on peut discuter bien sûr avec un ami du sexe opposé, mais il est important d'être transparent avec notre conjoint. Par exemple, à la maison, de ma femme, elle a libre accès à mon profil Facebook. Elle a le mot de passe, elle a aussi le code de débrouillage de mon téléphone, parce que j'ai rien à casser. Tout doit être transparent. Cela fait partie de la confiance. Si je n'étais pas dans cette attitude, c'est qu'il y a certainement des choses que je voudrais cacher. Mon ami, si ton téléphone est privé, il y a un problème. Je te le dis, si ton téléphone est privé, il y a un problème. Pour vivre libre, nous devons vivre dans la vérité et dans la lumière. C'est la vérité qui fera de nous des hommes libres. C'est la vérité qui fera de nous des hommes libres. Quand on n'a rien à cacher, on est libre, on peut vivre sa vie tranquille. Et on commence à devenir fou quand on commence à essayer de cacher des choses. Parce qu'un mensonge couvre un mensonge, qui couvre un mensonge, qui couvre un mensonge. Et on a vu l'expérience de David de ce que ça peut donner. Il n'y a pas de zone réservée, il n'y a pas de zone privée dans le couple. Car même si nous sommes deux individualités, nous ne formons plus qu'un aux yeux de Dieu. Quand je pense que la réussite de son couple se vit lorsque l'on investit dans notre relation. Proverbe 5, 15 à 19, on continue la lecture. Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les terres publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, sous ton joie de la femme de ta jeunesse, d'une des amours gazelles pleines de grâce. C'est un poète, hein, quand même. Que tes saints te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de ton amour. Dieu ici nous propose une alternative, un mariage apprécié, un mariage entretenu. Un mariage nourri dans tous ses aspects, même la dimension nous propose de boire l'eau de notre citerne. Une citerne, depuis dans le Proche-Orient ancien, était des propriétés privées d'une grande valeur. Le puits, il appartenait à monsieur Antel. La sexualité que Dieu veut se trouve dans le cadre exclusif de la propriété privée du mariage, ou de l'engagement, où l'engagement pardon, de l'un envers l'autre a été stipulé et énoncé du groupe. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, monsieur Remeter est épousé à madame Remeter. On le sait, parce qu'il y a un contrat, c'est dit aux yeux de tous. Ils l'ont acté. Alors, c'est bien de parler de ça, mais ceci étant dit, pour que notre mariage ou notre couple soit épanoui, la sexualité n'est pas la priorité, mais elle en est le plus. La sexualité ne doit pas être la priorité, mais doit être le plus. Yves Lambert, qui écrit un livre « Être libre, c'est possible », et un livre qui parle du combat face à la pornographie, a dit quelque chose comme la chose suivante. Vous ne pouvez pas jouir du fruit de la sexualité sans prendre soin de la plante dans sa globalité. L'ensemble de votre relation avec votre épouse. Vous ne pouvez pas jouir du fruit de la sexualité sans prendre soin de la globalité, cette relation avec notre épouse. Voilà pourquoi l'auteur de Proverbes nous invite à nous réjouir de la femme de notre jeunesse, c'est-à-dire de nous réjouir de celui ou celle envers qui nous avons pris des engagements. Nous l'avons dit au début, l'amour n'est pas fait pour qu'on se serve, mais il est fait pour servir. L'amour ne reçoit pas premièrement, il n'est pas là pour contenter mes désirs égoïstes, mais l'amour se donne, s'offre et s'abandonne. L'amour se donne, s'offre et s'abandonne. Pour stimuler notre relation amoureuse avec notre conjoint, il est important d'entretenir le jardin afin que la pelouse de notre couple soit toujours bien verte et à la bonne taille. Avec un collègue, on s'amusait souvent, on regardait les haies des gens. Et il disait, lui, c'est un retraité. Pourquoi ? Parce qu'on voyait tout de suite, quand on voyait le tour de la maison, quand c'était un retraité, la haie, elle était nickel. On pouvait poser un truc dessus, ça tient pas de problème. Par contre, celui qui était actif, ben, on voyait que la haie, ça poussait, ça sortait un petit peu tous les côtés. Il est important d'entretenir la relation avec notre conjoint. Une première petite clé, passer des moments en amoureux. Des discussions, des jeux, des sorties, promenades, bref, quelque chose qui vous plaît et qui vous rapproche. Il faut, de temps en temps, sortir de la routine, sortir du métro, boulot, dodo, ou du tram pour les traces de jour. Vous savez, si on ne peut pas toujours avoir la quantité parce qu'on est bien pris, nous devons avoir des moments de qualité. On ne peut pas avoir la quantité, nous devons avoir la qualité. Vous savez, un tête-à-tête avec votre époux ou votre épouse sera comme une oasis de paix au milieu de l'agitation de l'autre. Quelques clés. Lorsque vous consacrez du temps à votre conjoint, laissez de côté les textos, le téléphone et Facebook. Combien de fois mon épouse m'a fait comprendre que regarder mon téléphone alors qu'elle est en train de me parler, montrer un manque de respect. Elle me disait, j'ai besoin que tu passes du temps et que tu m'écoutes. Elle me disait, oui, c'est un manque de respect. Vous savez, je vous l'assure, vos amis Facebook ne mourront pas si tu ne réponds pas dans leur mail. Ils ne mourront pas. Par contre, l'heure que tu vas consacrer à ton conjoint que tu vois moins que tes collègues de travail dans une journée normale, ça va être vital pour la rendre tout. Vous savez qu'on passe plus de temps avec nos collègues de travail qu'avec notre conjoint. Ben, l'heure, le moment, l'instant que nous avons ensemble, il doit être soigné. On doit en prendre soin. Parce que celui-là, il est vital. L'ami Facebook, il n'y a pas de soucis si je réponds demain après-midi. Souvent, moi, c'est le mardi, vous savez, je suis congé lundi. Je sais que pour les parents, ce n'est pas toujours évident. Je suis en train de vous dire, il faut prendre du temps ensemble. Mais nous, les parents, on a des enfants, on n'a pas de famille à côté, on n'a personne pour les garder. Vous savez, c'est sûr qu'au sein de notre église, on a des jeunes étudiants qui ne seraient pas contre de se faire un peu d'argent de poche en faisant quelques heures de babysitting certains soirs. Je suis sûr que financièrement, ça ne va pas vous ruiner. Mais je suis sûr que par contre, ça va rapporter des intérêts dans le compte commun. L'argent que tu vas investir pour les quelques billets que tu vas donner aux jeunes étudiants qui vont s'occuper de tes enfants comme tu vas avec ta femme, ça va porter des intérêts dans le compte relationnel de la famille. Alors il faut faire des choses qui nous plaisent ensemble, mais pas que. Il y a des choses qui parfois plaisent à notre conjoint et que nous pouvons faire pour lui montrer notre amour. Par exemple, une fois par an, j'accompagne mon épouse à la cueillette des fraises. Vous savez, c'est une mode en Alsace, apparemment, mais si on cueille ses fraises. Alors pour moi, c'est une perte de temps peut-être, parce que j'ai dit, mais on peut déjà avoir le produit déjà emballé, déjà plié, etc. Mais pour elle, c'est important. Pour elle, c'est important ce temps-là parce que c'est un temps où on prend l'air, on fait quelque chose ensemble. Alors je décide de l'accompagner parce que j'aime plus ma femme que je me déteste avec une maîtresse. Un autre point. On peut, de temps en temps, envoyer un petit message, ou passer un petit coup de fil, ça ne fait pas de mal. Il n'y a pas besoin de parler au téléphone, mais juste montrer qu'on est en train de penser à l'autre. Vous savez, il n'y a pas longtemps que j'ai traversé un moment difficile. Et combien j'ai été encouragé par un petit mot de ma chérie, laissé sur la table, pour m'encourager à ne pas me laisser abattre par cette situation d'être en train de traverser. Et je me rappelle toujours, elle a marqué cette phrase, la victoire est un score. J'étais encore en train de me prendre la tête avec une situation difficile dans l'église, et j'étais vraiment au plus mal. Et elle m'a prié pour moi, qui m'a tout à fait changé, elle m'a dit mon bébé, c'est ce que je suis. Je suis en train de me livrer ce matin. Vous pouvez me lapider après si vous voulez. Mais elle me dit, la victoire est un choix. Il faut que tu sors de ça. Ma femme est spirituellement encouragée. On a besoin de l'autre. Après, ça peut être un petit cadeau, de temps en temps une petite surprise. Ça peut être bénéfique pour montrer à l'autre qu'il compte aussi pour nous. Pareil encore, faire des choses ensemble. Nous vivons dans une société où l'homme travaille à l'extérieur. Nous ne vivons plus, pardon, dans une société où l'homme travaille à l'extérieur et où la femme travaille à la maison. Et je dis bien travaille à la maison. Car s'occuper de la maison et du foyer, c'est un vrai travail à temps plein. Et il faut reconnaître que les femmes aujourd'hui cumulent deux temps plein. Voilà pourquoi on ne peut pas rentrer, nous les hommes, mettre les pieds sous la table en étant fiers d'avoir travaillé aujourd'hui dans ce que j'ai donné au travail. Et de se poser tranquille devant la télé et laisser l'autre galérer tout seul. Alors, à chaque couple, de trouver l'harmonie pour la répartition des choses à faire, peut-être en fonction des activités, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y en a qui aiment faire la vaisselle, l'autre qui aiment faire la lessive, peu importe l'arrangement. Mais faisons le travail ensemble. Répartissons-nous les choses. Partageons-nous le travail. Je parle encore aux messieurs, je prends cette citation de Marianne. Il y a un livre qui est excellent, messieurs, ma femme, le sexe et la gloire de Dieu. Je vous encourage aussi à lire. Elle dit, avant de toucher son corps, toucher son cœur et son âme. Avant de toucher son corps, toucher son cœur et son âme. Alors, toutes ces choses sont importantes, mais il ne faut pas non plus négliger le temps passé ensemble dans la présence de Dieu. Malheureusement, souvent, on néglige cet aspect. Prier ensemble les nécessaires. Porter ensemble les combats du foyer et vital. C'est vrai que Satan fait tout pour chercher à détruire l'unité de la famille. Parce qu'il sait qu'en faisant cela, il est en train de la détruire. Il fait tout pour frapper l'unité de la famille parce qu'il sait qu'en faisant cette œuvre de destruction, c'est des individualités, des foyers, des familles, des églises qui vont être détruites. L'expression de la sexualité est un fruit. Finalement, à la fin de tout ça, vous pouvez prendre plaisir dans une sexualité épanouie. Le passage que nous venons de lire est explicite. Vous savez, à beaucoup d'endroits, l'ivresse est désignée dans la Bible comme un péché. Et par contre, quand il s'agit du conjoint, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes invités à nous enivrer de son amour. Ce n'est pas un péché lorsqu'il s'agit de notre délire et d'investir avec son conjoint. La Bible n'est pas tabou en ce qui concerne la sexualité dans le mariage. Elle déclare que tout ce que Dieu fit, il le trouva bon. Dieu n'a jamais voulu que le mariage soit monotone, ennuyeux ou sans plaisir. en faire de dessin, vous savez que le dame vous avez un organe qui ne sert qu'à ça, qui a été créé que pour ça. Ça montre bien l'importance de la sexualité pour Dieu dans le cadre du mariage. Vous savez, j'étais assez choqué, je discutais avec un ami pasteur, et il me racontait comment un homme de son église ne prenait pas la Sainte Cène le dimanche matin quand il avait une relation avec sa femme là-bas, parce qu'il se sentait souillé. Je pense que c'est un problème. Parce que la Bible est claire. Et s'enivrer de l'amour de son Dieu, c'est quelque chose de vital qui est important. Les relations sexuelles sont un don de Dieu. C'est au mari et à sa femme pour le plaisir du Seigneur. Une véritable joie nous envahit au moment où nous décidons de prendre notre plaisir dans notre conjoint et de nous engager à répondre à ses besoins. C'est quelque chose qui se donne. On va conclure ce matin et j'aimerais inviter le groupe à venir. Vous avez fait un chant qui s'appelle Persévère et j'aimerais qu'on puisse le prendre dans quelques instants. Nous avons vu ce matin le programme pour les couples et pour les futurs couples de Dieu. Le mariage et la vie à deux est quelque chose de beau, mais c'est également un défi. C'est un défi, mais pas quelque chose d'insurmontable. Si nous prenons garde au danger que la Bible nous montre et que nous acceptions de relever le défi de l'investissement, le défi de l'engagement, nous pourrons vivre quelque chose d'épanouissant et qui contribuera à faire de nous de meilleures personnes et de meilleurs disciples. Nous sommes incomplets sans l'autre. Genèse 27 dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Longtemps dans la tradition d'Église, on disait que la femme était à l'image de Dieu à un degré moindre que l'homme. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Dieu créa l'homme, le mot hébreu Adam, c'est-à-dire le genre humain, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme Ish, Zakar, et la femme Isha, Mekeba. C'est ensemble que nous pouvons refléter conjointement et complémentairement et complètement l'image de Dieu. C'est ensemble. Rappelons-nous ce matin que l'image, l'engagement du mariage illustre l'amour qui se donne, comme Jésus l'a fait pour chacun d'entre nous. Nous sommes son épouse et qui y pensons. Amen. Pendant que la musique va commencer la journée, j'aimerais ce matin qu'on puisse prendre un temps. Et j'aimerais inviter les maris, qu'ils le souhaitent, à prendre la main de leur épouse ce matin. Et de dire ensemble, on va se tenir devant Dieu pour que l'ennemi n'ait pas pris sur notre couple. Ensemble, je vais me positionner ensemble envers mon conjoint pour dire que je suis engagé avec toi. Et je veux chercher ce temps de proximité avec toi, ce temps d'intimité avec toi. Je ne veux pas sombrer et tomber dans le piège de l'ennemi, mais qu'on puisse ce matin, ensemble, prendre position. Ma femme, elle est en bas avec les enfants, mais je ne peux pas la prendre dans les bras. Dans ma main ce matin. Et j'aimerais que l'on puisse prendre position ce matin. J'invite les hommes à prendre leur femme ce matin par la main. Et de leur rappeler, et de se rappeler eux-mêmes. Je veux m'engager pour toi. Je veux m'engager pour mon couple. Je veux m'engager pour mon foyer. Je veux m'engager par ma femme. Parce que je veux vivre le programme de Dieu pour ma vie. Alors je vous invite maintenant à vous aider pour ceux qui le souhaitent. Je ne veux pas laisser de place à l'ennemi. Je ne veux pas laisser de mise sur le titre à ce Thank you. Seigneur, je prie ce matin pour toutes les sœurs qui font ce pas, se placer en tant que couple devant toi. Je prie vraiment, Seigneur, pour les fortifier. Seigneur, que les uns et les autres travaillent ce qu'ils ont à travailler, toutes les choses qui ont pu être évoquées au travers de ce proverbe ce matin. Seigneur, nous voulons nous enivrer, nous voulons prendre soin de celui ou celle que tu as placé à nos côtés pour faire route ensemble. Seigneur, comprends ce matin que le puissant de ma vie, je suis comme tu peux m'offrir. Que je ne suis pas complet sur celui ou que tu as passé à mes côtés pour faire route ensemble. Seigneur, je veux relever le défi que tu m'as donné de l'aide de l'épouse pour que tu puisses t'aider de l'église. Je ne veux pas garder tes propres intérêts en devant ta vie à mes propres intérêts. Mais tu as gardé à l'amour. Seigneur, donne-nous d'être une génération d'hommes engagés pour notre famille, engagés pour notre foyer, investis pour la mission que tu nous as confiée, Jésus. Seigneur, nous voulons refléter ta gloire par nos mariages. Je te prie, Seigneur, pour que nos mariages puissent être des instruments qui font la différence pour ceux ou celles qui ne se connaissent pas dans nos amis, dans nos entourages. Qu'ils puissent voir qu'il y a quelque chose de différent lorsque Jésus est en place au sein du couple corde. Ne repart facilement. Je crois que Jésus veut encore encourager et fortifier les familles ce matin. Et il y a tant de repas, comme on l'a vu dans toute cette série, des décisions et des engagements. La grâce exclut le mérite, elle n'exclut pas l'effort. Et Seigneur, on croit que mariage nécessite un effort. Je te prie de souffler dans les renseignements. Tu connais les coups, tu connais ceux qui passent par des moments difficiles. Tu connais aussi peut-être celui qui est là au milieu de nous. Dans ton cœur, tu as projeté tout ce que tu fais. Peut-être projeté de te barrer avec une collègue de travail, je ne sais rien. Et pour que ce message est un avènement pour toi. Le Seigneur, en tant que tu ne tombes pas dans le trou. Parce que j'ai des projets pour toi et pour ton monde. Et que je te demande, c'est de te laisser. Afin que la bouche existe, même si la situation est difficile aujourd'hui. Seigneur veut faire des choses miraculeuses au travers de nous. Mais il attend une réponse de notre vie. Seigneur, que ma vie, que nous engagions de nous.